Chapitre 3. Deux jours plus tard, par la plus délicieuse des après-midi, l'arrière-saison a des clémences, elle aussi. Robert Cosal vint s'attabler à la terrasse du cardinal. Il revenait du bureau de poste, où on lui avait remis, sous pli clos, une lettre de Martha Miette, si délicieuse en vérité, si débordante de sincérité et de tendresse, qu'il en était encore malade d'émotion. Il avait donc résolu d'y répondre sans plus tarder, et s'étant fait apporter de l'encre et un cahier de papier à lettres, depuis déjà un instant, il demandait au lointain du boulevard la fin d'une phrase récalcitrante, quand il distingua tout à coup, parmi une houle confuse d'autres chapeaux et d'autres jupes, une jupe noire parsemée de pois blancs bien connus, et un chapeau non moins connu de paille blonde, où se hérissaient, pareillement en un champ de blé mûr, des bluets et des coquelicots. Il pensa si haut, « Mais c'est Marthe !» qu'un monsieur, assis non loin de là, en avala son vermouth de travers. Un moment, le soupçon lui vint d'une de ces aberrations de l'œil propres aux gens que persécute la hantise d'une idée fixe et qu'il faut retrouver 20 fois par jour sur des visages inconnus les traits du mort bien-aimé descendu au tombeau la veille. Mais non, au point de chimère, c'était Marthe. Et auprès d'elle, un de ces hommes dont le visage, la tournure, la démarche, la manière de porter le chapeau sur l'oreille et le pardessus clair sur le bras, sont comme une souriante action de grâce rendue au Seigneur notre Dieu pour l'immense bonté qu'il a eue de les faire venir au monde. Cette apparition inattendue le jeta au violent soubresaut d'un monsieur qui reçoit une gifle. Le sang lui afflua au cœur, et sur ses joues décolorées, la haine pointa et s'élargit en jaune boueux de macadam. Une révolte telle qu'il fut obligé de mordre à même afin de ne pas la crier, l'exaspéra brusquement contre ce voleur de maîtresse, contre elle aussi, venue se placer sur son chemin, tout exprès, avec cette rage où elles sont toutes, sitôt qu'elles ont pris un amant, de le faire voir à leur mari. Oh, tout de suite, il arrêta une ligne de conduite. Se montrer à l'égard d'Amiette, inconvenant d'abord, puis grossier. L'amener à une parole de trop, et la relever d'une paire de claques, doux échange de témoins, rencontre inévitable, et la peau enfin obtenue d'un personnage exécré. Ce n'était pas très romanesque, ce l'était seulement un petit peu. N'importe, enchanté de son projet, il fourra dans sa poche sa lettre et regarda à droite avec beaucoup d'indifférence, tout en guettant du coin de l'œil gauche la venue vers lui de la jupe à pois blanc, d'où débordait par en dessous un délicat soulier de cuir jaune. La fusion eut lieu. Bonjour. Le jeune homme fut vraiment remarquable lorsqu'il s'éveilla en sursaut à la pression du doigt de Martha Miette sur le son bras. Oh, chère madame, bien, voilà une surprise. Marthe souriait. Elle fit des présentations. Monsieur Frédéric Amiette, Monsieur Robert Cosal. Cosal, fidèle à son petit plan, décida d'ouvrir les hostilités en ne rendant pas à Amiette le coup de chapeau que celui-ci ne pouvait manquer de lui abattre. Malheureusement, Amiette ne lui abattit aucune espèce de coup de chapeau. Simplement, « Ah, Cosal !» s'écria-t-il. « Comment ? C'est vous qui êtes Cosal ?» Cosal, désorienté un peu, confessa être cette personne, sur quoi Amiette se répandit en divagations d'enthousiasme. « Ah, mon cher, eh bien, elle est bonne. J'allais justement vous écrire de venir dîner à la maison. Vous savez que ma femme est amoureuse de vous. Oh, permettez, oh, ma parole d'honneur, elle n'a que votre nom à la bouche. C'est causal par-ci, c'est causal par-là. Je n'entends plus que ça depuis mon retour. Sérieusement, je crois qu'elle est pincée. Tu es pincée, hein, Marthe, ça y est. Allez, dis la vérité, va, dis-la. Dis-la donc, puisque je t'autorise. Il la poussait par taquinerie. Marthe, qui l'impatientait et dont ses facéties de commis-voyageur choquaient les réserves bourgeoises, le pria sèchement de finir. « Ah, tu m'ennuies !» Le claquement de lèvres agacées qu'elle lui jeta avec le mot eut pour effet de le mettre en joie. Sur ses dents de puissant lévrier, visiblement brossées à tour de bras, s'ouvrit, ainsi qu'une large fleur, le rire sonore de ce beau garçon. Il dit alors qu'on allait faire connaissance en buvant un verre de bière, et tandis qu'il rouait de coups la tôle du guéridon pour avoir des sièges et des bocs, Causal, sentant pousser en soi le germe des amitiés qui seront profondes et résistantes, songeait « Ben, il est rigolo, ça a l'air d'un bon vivant. » « Et comme ça, questionna-t-il quand le garçon eut apporté les consommations commandées, vous voilà de retour à Paris ?»« Oui. C'est sur pied, votre machine ?» Il faisait allusion à l'affaire des petites commandites, cette entreprise dont la difficile mise au point avait 2 mois projeté à mai de ville en ville, de train en train, de bateau en bateau. Celui-ci eut le vague geste qui écarte les futilités. « Polo, j'ai lâché !»« Comment lâcher ?» s'écria Causal très surpris. Mamillette entra dans des explications. « Oh, ça m'embêtait !» Il y eut un instant de silence. Le jeune homme attendait la suite. Rien ne venant. « Tant pis, fit-il, je connaissais votre projet, madame m'avait mise au courant. Je trouvais ça assez curieux, moi, cette idée de commanditer l'infime commerce, le marchand de marrons ou de mourons, le commissaire du coin ou le négociant en oubli, d'avancer à l'un son crochet, à l'autre sa poêle à rôtir, à celui-ci sa charrette, à celui-là son tourniquet, et de prélever ensuite... un équitable 10% sur les profits réalisés. Bénéfice minuscule, c'est vrai, mais qui multiplie et occupe, je finis par faire des sommes. Hé hé, dit Amiette, rien du tout. Oh, le jeu n'en valait pas la chandelle. Puis j'ai plusieurs autres idées. Marthe eut un étrange sourire. Et allons donc, s'éclama-t-elle. Le contraire m'aurait étonné. De même, la mission d'un arbre fruitier de porter des noix, des cerises ou des pêches, de même la mission d'Amelette était de porter des idées, toujours inapplicables, c'est vrai, mais toujours originales, puisées aux sources, aux seules sources, d'une imagination délicieusement absurde. Fille timbrée d'un père qui avait reçu une fêlure, elle possédait au plus haut degré, comme lui-même, le don précieux de faire illusion, de charmer par leur bonne grâce, de séduire par leur nouveauté, et de convaincre enfin les gens par leur ardente foi en elle autant que par leur raison d'être, étonnamment apparente. Elle sonnait à ce point leur content, qu'on leur faisait crédit sur la mine tout de suite. Seulement, prier de s'exécuter, rien de fait. Ce n'était plus le jour. Que de millions avaient dévoré leurs quenottes depuis une dizaine d'années qu'Amiette infestait Paris, la province et l'étranger, de son ingéniosité sans seconde. Il est de ces blondes fiancées aux yeux doux, aux lèvres de rose, qui, le soir venu de leurs noces, et tandis que l'heureux époux se ronge les poings d'impatience, dégrafent leurs corsets, laissent tomber leurs jupes et lèvent leurs chemises sur une jambe de bois. C'était précisément l'histoire des idées de Frédéric Amiette. Elles aussi avaient les yeux doux, elles aussi avaient de roses lèvres, et des cheveux abondants, et des hanches en amphore, et des sourires faits pour ravir, et des regards faits pour troubler. Oh, ce n'est point à mettre en doute. Elles avaient toutes les perfections. À cela près, naturellement, de cette jambe, de cette sacrée jambe, soudain révélée à l'horreur de l'épouseur désenchanté, au moment qu'elle levait la chemise. Car elles en trouvaient toujours des épouseurs. On avait beau être prévenu, tout le temps on se laissait pincer à l'inédit de leur séduction, à l'étrangeté mystérieuse et inattendue de leur charme. Puis Amiette apportait tant d'art dans la façon de les présenter. Non, certes, l'ignoble art du camelot, expert à ameuter la foule en charbonnant sur le trottoir trois petits poissons enlacés, mais cet art de la persuasion, fruit des convictions généreuses et des emballements aveugles, dont ont le secret les personnes qui ont trouvé le mouvement perpétuel et les portières qui font l'éloge de leurs filles élèves au conservatoire. Sa science, vraiment incomparable à étaler ses projets, n'était pas sans quelque ressemblance avec celle de ces habiles étalagistes dont éclate le bon goût en couleurs voyantes aux glaces des grands magasins. Très fort dans la démonstration de besoins qui n'existaient pas, qu'avait seul créé de toutes pièces son imagination perpétuellement en couche, et dont il parvenait cependant à faire hurler l'évidence, il se montrait plein de génie dans la théorie des remèdes à apporter, établissant par A plus B non seulement le pourquoi de leur efficacité non douteuse, mais encore le parce que de leur opportunité urgente. Il avait alors des paroles qui tuaient l'objection dans l'œuf, des arguments qui jetaient des feux de pierres précieuses, prêts à se battre pour ses thèses comme un père se bat pour ses filles. L'insanité, toujours acceptable de ses vues, apparaissait avec la majestueuse grandeur de la vérité première à cet homme d'une entière bonne foi, coupable en tout et pour tout de ne pouvoir fixer sa pensée, de laisser sottement croupir dans le paradoxe ou se décomposer dans le grotesque des idées qui ne demandaient qu'à éclore, et de ne savoir enfin résigner son esprit aux lenteurs de la gestation. Cette fois, il partit en campagne contre le mode de publicité en usage dans les journaux, qu'il déclara niais et illusoire, bon seulement à pressurer la crédulité des naïfs. Il s'étonna que des gogos osassent encore lâcher 100 sous pour noyer un nom, une enseigne, en cette inextricable botte de foin, la 4e page d'un journal. La 4. Il s'esclaffa. Disons les choses sérieuses. Est-ce que jamais la pensée vous est venue d'y jeter le moindre coup d'œil? Et je dis un jour, notez bien, je dis une fois par hasard, en une heure de désœuvrement. Cosa le reconnut qu'en effet. Mais Amiette ne lui laissa pas le temps de placer un mot. Eh bien, vous vous appelez Légion, déclara-t-il. Sacré Dieu, cela crève les yeux. Là-dessus, il but une gorgée de bière et prit violemment au collet la réclame dite « fait divers » qu'il reconnut bonne en soi, vu son chic à ouvrir le piège sous le pied du lecteur confiant et à capter l'attention par des titres sensationnels. « Le philanthrope du boulevard Magenta », par exemple, ou « Un généreux bienfaiteur », ou « Une action à signaler », etc., etc. « Mais quoi ?» poursuivit-il. « Ça commence à ne plus prendre. La mèche est déjà éventée. Le lecteur n'a pas lu 6 lignes qu'il devine le dessous de la carte et envoie le journal au diable, avec l'agacement vexé d'un monsieur qui a failli prendre une vessie pour une lanterne, une limande pour une sole. si bien que c'est devenu la lutte entre le marchand de ci ou de ça, qui persiste à crier « J'en vends !» et le public entêté lui à répondre « Bon, c'est rien !» Ça peut durer longtemps dans ces conditions-là. Alors quoi ? Car enfin, le principe de la publicité n'est pas à discuter une seule minute. Et si je veux bien, à la rigueur, me servir de votre purgatif... Non, mon purgatif, interrompit Causal. Quel purgatif, je vous prie ? Le purgatif dont je suppose, pour le besoin de ma démonstration, que vous êtes l'inventeur et le dépositeur, répondit Frédéric Amiet. Donc, si je veux bien user de votre purgatif, c'est à la condition que vous commenciez par me dire « Le purgatif, Robert Causal, se distingue de tous les autres en ce qu'il leur est supérieur, ou par ceci ou par cela. » Faute de pouvoir faire autrement, Causal acquiesça de la tête. « Bien sûr, fit-il, c'est évident. » Au fond, il était embêté d'avoir été représenté comme l'inventeur d'un purgatif, même hypothétiquement et pour le plus grand bien d'une saine cause à défendre, en présence de la femme aimée. Mais, enfiévré de théorie, Amiet ne lâchait pas le morceau. Parti de ce point initial, le purgatif Robert Causal, il en revenait éternellement au purgatif Robert Causal. Ainsi, un maître de conférence lancé dans la démonstration d'un théorème géométrique ramène tout à la perpendiculaire A'B', ABC sur l'hypoténuse du triangle ABC. Aussi bien l'abaissa-t-il la perpendiculaire A'B' sur l'hypoténuse du triangle, car il ne détestait pas emprunter aux sciences exactes les images dont il usait. Procéder à ces en honneur chez les personnes qui ont coutume de proclamer le contresens et dont on ne saurait glorifier en termes suffisamment pompeux les considérables avantages. Rien de bon pour forcer l'attention et déterminer la confiance d'un auditoire récalcitrant, comme l'évocation faite en temps utile du principe d'Archimède, des lois de la pesanteur ou de l'action rapide des acides sur la tintère du tournesol. Ne faudrait-il pas être doué, en effet, d'une obstination peu commune pour nier l'excellence d'une ânerie basée sur des règles immuables ? Et celui-là ne serait-il pas un grand fou qui persisterait dans son erreur alors qu'on aurait pris la peine de la lui prouver par neuf ? Amiet ayant trouvé le moyen de restituer le principe vital à la publicité mourante, procéda de la thérapeutique pour établir, avec tout l'éclat désirable, le bien fondé de sa doctrine. Je prends un exemple, l'aloès, qui est le fond de votre purgatif. L'aloès est un amer, bien. Le palais le plus aguerri n'en serait supporté la saveur détestable, c'est une affaire entendue. Or, à l'aide de quel subterfuge lui imposez-vous cependant cette médication salutaire dont les effets bienfaisants se sont affirmés des centaines et des milliers et des millions de fois ? En l'enfermant, ici il s'interrompit, inclina du buste vers la table, puis d'un doigt qui hachait la phrase, en l'enfermant dans des pilules. Dans des pilules à base de sucre, dont le goût flatte le malade et excite sa friandise. Eh bien, c'est par le même système que j'entends contraindre le lecteur à une lecture qu'il exècre. C'est-à-dire, demanda Causal, c'est-à-dire que, délicatement, j'enveloppe ma publicité de lits de sucre agréable au goût en l'englobant par granules insensibles dans la partie du journal qui vise le plus directement la curiosité du public. Vous ne saisissez pas. Mon Dieu, mais vous ne comprenez pas que c'est la carte forcée, le médicament imposé qui passe quand même sans haut le cœur à la faveur d'une chatterie. Il eut la moue agacée d'un illuminé incompris. « Ben, c'est cependant bien simple, que diable !» Un journal traînait à portée de sa main. Il l'attira et le déploya. « Je prouve, » dit-il. Et simplement, avec la souriante aisance d'un père qui présente dans le monde sa fille bossue, borgne et bancale, en demandant « N'est-elle pas charmante ?» il improvisa ce qui suit. Question du jour. Il est question d'une demande en autorisation de poursuite contre M. Jaurès à raison de son attitude lors des dernières grèves de Carmo. Bien que moi ne soit encore certain, nous croyons pouvoir affirmer que s'il est une infirmité désagréable, c'est à coup sûr la constipation. Espérons que cette nouvelle se confirmera et que satisfaction sera donnée à l'indignation du pays. Est-il rien de plus scandaleux que l'immunité dont semblent jouir certains de nos représentants? Nous l'estimons des plus préjudiciables aux intérêts du gouvernement, de même qu'à son prestige. Aussi bien est-ce la source d'une foule d'accidents, tels que l'hémiplégie, la paraplégie et la taxilocomotrice. Le journal des débats d'hier le constatait dans un article plein de bon sens, tout en prenant le soin de reconnaître qu'il y a, à l'heure actuelle, une impression de détente générale et un retour à la confiance dû en partie à l'énergique attitude de M. le ministre, président du Conseil. En pourrait-il être autrement? La constipation, en effet, dénature la fermentation stercorale. D'où absorption de matières capables de déterminer des désordres dans le fragile organisme humain. Nous partageons complètement sur ce point l'avis du journal des débats, mais nous prétendons qu'il convient aux dépositaires de l'autorité de protéger la sécurité publique et d'imposer à tous le respect de la loi. Il importe donc de la combattre avec la plus grande énergie. C'est le but que se propose d'atteindre et qu'atteint le purgatif causal. Il est fâcheux, en effet, de voir un personnage que ses concitoyens ont honoré de leur confiance se livrer à de détestables provocations et exciter parmi le peuple les haines les plus sauvages et les passions les plus violentes. Ajoutons qu'il est à la portée de toutes les bourses et qu'on le trouve dans toutes les pharmacies au prix de 1 franc la bouteille. Là-dessus, ayant terminé, Frédéric Amiel dit « Voilà !» Autour de la planchette de bois qui le maintenait grand déployé comme une hampe son drapeau, il emmaillota le journal dont il venait de se servir. « Hein ?» fit-il à ses auditeurs d'une voix où s'épanouissait la légitime fierté de soi-même. « Voilà qui est nouveau et bien fait. Et je crois que ça y est un peu, cette affaire-là. »« Mais, dit simplement Causal, gardant une prudente réserve. « Mais, Marthe, tu te moques de nous, je pense. » Amiens s'écria. « Qui, moi ? Ah, non !»« Non ?» reprit Marthe. « Ainsi, c'est gravement, c'est sans rire, que tu viens demander notre avis ? Tu ne vois pas que cela est grotesque, mais d'une bouffonnerie à faire hurler. » Et elle s'emportait, révoltée dans son instinctive droiture, dans la logique rationnelle de ses vues un peu terre-à-terre, heureuse aussi de l'occasion qui s'offrait de livrer l'homme qu'elle n'aimait pas à la moquerie de celui qu'elle aimait. Et quand elle eut déversé tout son fiel, s'écriant « Mais tu ne vois pas qu'un article pareil serait du jour au lendemain l'effondrement du journal qui aurait eu la folie de l'insérer ?» Amiette parut frappée tout de même. « Ben, tu crois ?» fit-il. « Ben, au fait... tu as peut-être raison. » Puis, pleinement désintéressé, en grand seigneur qui a le moyen de jeter l'argent par les fenêtres. Oh, ça m'est bien égal, du reste, ce ne sont pas les idées qui me manquent. Parole marquée au sceau même de la vérité, ainsi qu'il le prouva sur l'heure, en révélant à l'ahurissement de Causal le projet par lui caressé de se mettre commis voyageur en littérature française. Cette déclaration dépassait les espérances du jeune homme. Amiette développa sa pensée. « Mon cher, nous vivons en un temps où les gens, systématiquement, ne veulent pas faire le métier qu'ils exercent. Tenez, il y a de par les rues des messieurs pauvrement vêtus qui se promènent un sac sur l'épaule en criant « Habits, habits, avez-vous des habits à vendre ?» Appelez-en, hein, et présentez-lui un paletot. L'homme examinera le paletot avec une attention recueillie, il en ébranlera les boutons, il en inspectera les coutures, après quoi il vous demandera « Vous n'auriez pas plutôt des bottes, une casserole ou de vieux papiers ?» Et pourquoi ? Pour la raison bien simple, que sa mission dans l'existence étant de revendre à bénéfice de vieux vêtements qu'il a achetés, il ne veut trafiquer que des choses étrangères à sa profession. Autre exemple, le marchand de journaux est un homme qui conquiert centime par centime son pain et celui de ses enfants. Il semble donc que tous ses calculs devrait tendre à l'amélioration de sa condition trop humble, par conséquent à multiplier du même coup la vente des feuilles publiques, base de son commerce, et les centimes, fruits de ses peines. Voilà un raisonnement frappant, n'est-il pas vrai ? Un raisonnement élémentaire, d'une logique faite pour éblouir la jugeote d'un enfant de 5 ans. Oui, eh bien, fondez un journal, et essayez de le lui faire vendre. Essayez un peu pour voir. Vous n'aurez pas placé 20 mots qu'il se dressera indigné et qui vous chassera de son kiosque. Parfaitement. Et avec un fouet, comme Jésus à Jérusalem chassa les marchands du temple. Pourquoi ? Parce qu'imprudemment, vous aurez voulu contribuer à l'extension d'un négoce qu'il exerce, mais n'accepte pas. Et que créé pour vendre des journaux, il aspire à vendre de l'huile, du vermicelle, des bouchons, enfin, en un mot, des choses n'offrant aucune parenté, même lointaine, avec la branche d'industriel qu'il a, remarquez bien ceci, volontairement adopté. C'est en vertu de la même loi que nous voyons avec surprise les charbonniers vendre du vin, les merciers vendre de la papeterie, les marchands de couleurs vendre des boutons de porte, des lampes à pétrole et de la poudre à punaise. C'est une chose connue de tout le monde que les garçons de café sont professeurs de course. Et je vous mets au défi sur 10 cochers de fiacre de n'en pas trouver un qui soit marchand de chien. Eh bien, il en est de l'éditeur exactement comme du marchand d'habits. Contraint par la force des choses d'acheter l'un de vieux vêtements, l'autre de la littérature, il se rencontre sur ce même terrain l'idée d'acheter des casseroles. Cela est vraiment curieux, et l'imbécilité des hommes est amusante, vue de tout près. Cependant, à la lueur des lampes et sous les lambris des mansardes, des jeunes hommes pleins de talent entassent des feuillets de copies. Peine perdue, l'éditeur ne les éditera pas, car son devoir, son rôle, sa tâche serait justement de les éditer. En vain, ils lui démontreront les mérites de leurs marchandises. En vain, comme je ne sais plus quel personnage de je ne sais plus quelle opérette. Ils lui corneront aux oreilles « Voici ma fille, elle est jolie, voici sa dot, elle est en or. » « Je n'en veux pas, » répondra l'éditeur, opiniâtrement insurgé contre sa propre raison d'être. « Mais prenez mon ours, sacrebleu, non !» Mais je vous l'abandonne à vil prix. Non. Mais prenez-le pour rien, alors. Je n'en veux pas, je vous dis non et non. Eh bien là, il y a là un vice qu'il est urgent de réformer. J'ai donc imaginé ceci. Je vais trouver sous ses lambris l'homme de talent dont je vous parle. Je lui achète honnêtement 500 francs à mes risques et périls, l'œuvre qui lui cédait pour rien, est devenue l'intermédiaire entre l'auteur qui me bénit et l'éditeur que je persuade à l'aide de mon éloquence. Là est la difficulté, mais en même temps la raison d'être, le côté large du projet. Je deviens, moyennant 25 louis, seul propriétaire d'un ouvrage qui peut très bien me rapporter 100 ou 150 000 francs, par la raison que je dois un jour, forcément, logiquement, inévitablement, mettre la main sur la poule aux œufs d'or. Cela ne crève pas les yeux d'évidence? Il posa la question, et d'un geste élargi qui prenait le globe à témoin, il y répondit sur le champ. Oh, son rire sonore saluait des victoires certaines. « Vous verrez, mon cher, vous verrez !» Là-dessus, à propos de rien, sans même se donner la peine de chercher une transition, il conta qu'il avait trouvé un truc vraiment épatant pour le lancement d'une pommade contre les affections du cuir chevelu. Il expliqua. Le boulevard, 5 heures, la vie parisienne bat son plein dans la joie d'une belle fin de journée. Tout à coup, une auto fait halte, un bolide en jaillit que semble avoir projeté la détente d'un catapulte. C'est un homme aux mains folles. De sa bouche, dont l'ouïe béant évoque le guerrier hurleur du groupe de Rude, là-bas à l'Arc de Triomphe, une vocifération s'échappe. « Arrêtez-la, arrêtez-la !» Et vers la Madeleine que baigne l'or du couchant, pareillement une flèche, il file. La foule s'écarte devant lui, s'efface sur son passage, s'élance sur ses traces. « Eh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et on ne sait pas, on parle de vol, de séquestration, d'entolage... « Oh, c'est une louveteine qui s'est trottée !» affirme un petit télégraphiste. Un petit pâtissier assure. « Oh, c'est un monsieur que sa robière y a foutu du vitriol !» Et lui, la foule aux talons et les talons aux fesses, va de l'avant, dévore l'espace. « Arrêtez-la ! Arrêtez-la !» Par le travers de la chaussée où les multicolores autos s'entrecroisent comme des projectiles, toujours suivi d'un flot humain dont l'impérieux besoin de savoir l'emporte sur l'instinct de prudence, il se précipite les bras hauts, et aussitôt, d'un même mouvement spontané qui les rejette d'avant en arrière, les mécaniciens effarés ont contrarié leur direction, mêlant le concert de leurs blasphèmes aux plaintes suraiguës de leurs freins. N'importe. Vers le but mystérieux, vers l'énigmatique mission, il poursuit sa course affolée. La rue d'Aunou, qu'il a reçue de la rue Scribble, restitue à la rue Édouard VII, qui le renvoie à la rue Cambon. Il court, le furet. Un banc se présente, déjà il a escaladé, et des hauteurs de ce perchoir, la main en visière sur les yeux, fouillant les lointains du boulevard. « Mais arrêtez-la donc, arrêtez-la donc, arrêtez-la donc, nom de Dieu !» Et d'un coup, à l'unisson, la foule. « Et qui, à la fin, qui » hurle-t-elle. « Lui, alors, qui ? Mais la chute des cheveux !» Et soudain, apaisé, cependant qu'arrachés aux ténèbres de ses poches des centaines de prospectus plane au-dessus des fronts du vulgaire comme des feuilles de marronnier par une bourrasque d'automne. « Messieurs, trêve de plaisanterie, l'heure des choses sérieuses a sonné. le merveilleux produit que je viens soumettre aujourd'hui à votre haute compétence. » Cosal en pleurait. Marthe elle-même, prise au piège, ne put retenir un éclat de rire qu'elle désavoua aussitôt, tant bien que mal, d'un léger haussement d'épaule, tandis qu'Amiette, vengée, le triomphe goguenard, la questionnait sur le ton d'une respectueuse sollicitude, s'informait si madame, cette fois, avait marché, oui ou non, si elle voulait bien l'honorer de son approbation pleine et entière, si elle n'avait pas à soumettre quelque observation judicieuse, quelques-unes de ses fines critiques, dictées par la sagesse même dont elle possédait le secret. Toute chose qui se moquait d'elle un peu, mais si gaiement, si gentiment, qu'il eût fallu avoir bien mauvais caractère pour leur en garder rancune. Amiette, d'ailleurs, tout en blaguant, venait de tomber en arrêt devant l'horloge pneumatique qui montrait l'heure au boulevard de son cadran à double face. « Oh, diable !» s'exclama-t-il, « 5h30 bientôt !» Ah, c'est l'instant de réintégrer. Allez en route, Marthe, nous sommes en retard. » Puis à Cosal, « Il naît, reprit-il, si bonne société qui ne se quitte, comme disait François Ier, en flanquant ses chiens à l'eau, mais nous n'en resterons pas là, je pense. » « J'espère bien, dit l'autre. » Amiette poursuivit. Pas une minute à moi tous ces jours-ci, mais un soir de la semaine prochaine. Il faut que vous veniez dîner à la maison, en copains, sans cérémonie. Cela colle ? » Cosal s'inclina. « Bien aimable, merci, cela colle. J'accepte avec grand plaisir. À la bonne heure. Un petit bleu le matin pour le soir, cela suffit ? » ?»« Oh, absolument. All right. À bientôt, en ce cas. » Sous l'ombre du guéridon, la main de Cosal, depuis un instant, était venue retrouver celle de Marthe. L'insensible pression de ses doigts sur les doigts gantés de la jeune femme fut un adieu tendre et discret. Mais en même temps, de sa dextre énergiquement secouée, il répondait au shake-hand affectueux de son nouvel et déjà vieil ami. Entre la femme et le mari, son cœur conquis se partageait. Peu s'en fallut quand, sous ses yeux, le couple se fut perdu par les éloignements du boulevard, que le mot de Quasimodo lui vint aux lèvres. « Tout ce que j'aime !» Chapitre 4. Le lundi est arrivé, et juste Frédéric Amiette, qui n'a mis le pied hors de chez soi depuis son retour à Paris, est sorti de l'été du matin ce jour-là. « Ouf !» fait Marthe, anxieuse, à demi couchée sur le garde-fou de la fenêtre, elle la regardait s'enfoncer, décroître, disparaître enfin dans l'agitation de la rue. « Louise !» la femme de chambre apparaît. « Mon toquet de paille d'Italie, Louise, et ma jupe de serge bleu. » « Madame sort ?»« Oui, je sors, oui, une heure. »« Le déjeuner, comme d'habitude ?»« Comme d'habitude, certainement. »« Si par hasard monsieur était de retour avant moi, je serai ici à midi. » Ainsi parle Marthe Amiette, les dents serrées sur l'épingle de son chapeau, et qui, les mains activées à nouer derrière sa nuque les bouts flottants de sa voilette, mirent ses coudes dans le cadre haut de l'armoire à glace. « Bon, eh bien, je me sauve. Madame ne prend pas son ombrelle, il fait un temps magnifique. » Mais madame n'a pas entendu. Madame est déjà loin. Madame court chez son amie. Comme depuis tantôt 10 jours elle ne l'a pas embrassée, elle se réjouit de l'embrasser enfin, et elle rit d'aise à l'avance derrière le tissu de sa voilette. Celle-ci, de tulle blanc où s'espacent des mouches, lui colle étroitement aux joues, la défigure à la fois et la fait jolie à ravir, les yeux allongés en chinoise et le bout du nez troussé un peu. Paris, le matin au soleil, à de délicieuses allégresses, avec ses milliers de fenêtres ouvertes sur le demi-jour des appartements, où vont et viennent le tablier saint au Rhin, les alertes femmes de chambre. Un instant, la jeune femme hésite. Un fiacre ? Bah, il fait bon marché, et la douceur de la promenade est comme une invitation aux douceurs de tout à l'heure. Puis Montmartre a cela de bon qu'il est toujours à deux pas. 10 minutes à peine, et le voici. Marthe le pressent, elle le devine, rien qu'à voir les lourds autobus soufflés comme de gros poussifs par la montée à pic des rues. Dans un instant, à un coude de maison, se démasqueront brusquement les ailes pour rire du Moulin Rouge, puis celles du Moulin de la Galette, qui ne tourneront nevermore, jamais plus. C'est l'heure charmante où les tramways transportent sur leur plateforme les blanches flottilles des journaux déployés, où les modèles que virent naître les campagnes napolitaines illuminent la place Pigalle des gaietés bariolées de leurs loques. Déjà reviennent du marché les ménagères matinales, et Martha Miette, avec une admiration amusée, apprécie leur art merveilleux à tenir dans une seule main des mondes, la boîte au lait, le filet au provisions, la bourse, la clé, le journal, le chêne-vie du serin et le mou du minet. Car encore convient-il de se réserver une patte pour rafler la monnaie d'un louis, donner 2 sous à un aveugle ou calmer d'une bonne bourrade l'enthousiasme de ces malotrus qui ne craignent pas de s'émanciper jusqu'à pincer le derrière aux dames sous prétexte de leur rendre hommage. Mais c'est le temps d'un sourire, rien de plus. Trotte, ma fille, allons, allons. Et Marthe, qui se hâte et s'essouffle, se rend soi-même cette justice qu'il faut vraiment aimer les gens pour payer d'une telle gymnastique le plaisir de les embrasser à la volée, un baiser ci, un baiser là. Bonjour, bonsoir, je t'aime, je me sauve, et de s'en retourner dard dard. Crainte que le mari, rentré trop tôt, le demande étonné à Louise. « Où donc, madame, est-elle allée ?»« Ouf » fait-elle. « Ah, c'est haut, la butte. Elle est un peu dure, la côte. » Qu'importe. Une douce espérance encourage cette amoureuse. L'idée de le surprendre au lit, lui, flagrant délit de lâche paresse, de baiser son profond sommeil, et de jeter ensuite, gaiement, à sa confusion ébouriffée, le rire qui se moque et qui adore. La bonne surprise, et quelle joie de jouer aux êtres chéris des tours à ce point abominable. Tout au plaisir qu'elle se promet, Marthe, sans même s'en être aperçue, a gravi de hauts escaliers aux marches vert moulues et disjointes. Alors, stupéfaite, « Ah, déjà, sans doute. » À présent, devant elle, c'est la villa Bonabri qui embaume comme un bouquet et dont garde l'entrée, sentinelle paisible, un émorin de plâtre manchot et une estelle aux yeux de limande en amouré, l'un le coude aux manches de la bêche, l'autre les doigts à la jupe, en dame qui découvre ses chevilles, avant de danser le menuet. Marthe pénètre. L'allée commune de la villa s'allonge sous ses pieds et fuit. À droite, à gauche, derrière l'aubépine des haies enguirlandées de volubilis, ce sont de petits jardinets d'une niaiserie attendrissante, où le râteau a laissé des sillons, comme en laisse le peigne du coiffeur aux cheveux luisants d'un collégien, le jour de sa première communion. Mais vers les splendeurs de l'azur montent les arbres aux cimes touffues, peuplés de fauvettes et de merles, qui chantent la gloire du beau temps. Marthe enfin est rendue. C'est là. Elle repousse la frêle barrière du jardin de Robert Causal, dont elle évite avec quel soin de faire tinter la clochette. elle se hâte. Un souffle de brise incline et courbe vers ses jupes les hautes têtes des glaïeuls familiers, qui vraiment semblent la reconnaître et lui dire « Bonjour, madame ». C'est au point qu'elle ne peut s'empêcher de sourire et qu'elle doit se retenir à quatre pour ne pas céder au plaisir de répondre « Bonjour, glaïeul !» avec le besoin d'expansion d'un cœur qui déborde d'ivresse. Voici la chère petite maison, simple comme une âme d'enfant qui lui fut si hospitalière, que tant de fois, pour lui faire accueil, la pauvreté du bien-aimé emplie de roses coupées aux rosiers du jardin. Voici le rideau de clématite tendu si épais devant les vitres qu'elle put cent fois livrer ses lèvres sans que les oiseaux du dehors n'aient jamais rien soupçonné. Et voici aussi les platanes, dont elle entendit si souvent les douces mains, les mains délicates, glisser en frôlement d'ailes sur le zinc du toit, à ces minutes extasiées où les amants échangent le baiser silencieux qui confond en une seule deux âmes. Deux pas encore ? Plus qu'un ? C'est fait. La plainte d'une porte qu'on pousse, le cri de la femme que frappe au cœur le coup de couteau de la trahison, et Marthe se sauve éperdue, folle. Tandis que dans le pavillon, Cosa le crie « Mais t'en vas pas, je vais t'expliquer !» Et qu'Anita, la blanchisseuse, pour n'y avoir vu que du feu, demande « Quoi que c'est qui vous prend ? C'est-il que vous êtes ma boule ?» Chapitre 5. Enfin, vers 5 heures du matin, Cosal, qui pouvait sans se gêner courir 2 lièvres à la fois, et qu'avait tenu éveillé toute la nuit le chagrin d'avoir perdu Marthe, mêlé à l'agacement de ne pouvoir trouver le clou ingénieux et hardi, le « je ne sais quoi » qu'il sentait nécessaire à l'éclat de son premier acte, perdit brusquement patience. Il cria « Zut !» sauta de son lit, las de s'y retourner d'un flanc sur l'autre, et passant son pantalon de toile, il s'enfuit au jardin voir le réveil des fleurs. L'aube naissait en impressionnisme délicatement rose et vert, et l'énorme bouquet de feuillage qu'était la villa Bonabri, ses massives indécises encore, ses hauts ormeaux aux cimes touffues, villes légères et balancées, où vivent, aiment, chantent et meurent les petits oiseaux par milliers, était un cadre tout indiqué aux rêveries mélancoliques de ce jeune homme sentimental. Il ne manqua en aucune façon de les y loger, et elles furent là comme dans leurs meubles. Le front baissé, la cigarette aux lèvres, les pieds nus dans des espadrilles. Ah, combien il est dur, songeait-il, de n'avoir plus de maîtresse quand on en a eu une, et que l'homme est une sotte bête qui passe sa vie à la gâcher, avoir employé sa jeunesse à chercher des mains où la mettre, s'être dit « j'ai une âme en or, je la garde pour la plus digne », avoir eu la chance fabuleuse de mettre le doigt sur la perle et n'avoir eu de cesse qu'on ne l'ait laissé perdre. Ah, misère, si j'avais su, si j'avais pu supposer. Bien sûr, non, je n'aurais pas couché avec l'apprentie blanchisseuse. Mais voilà, je croyais n'être jamais pincé. J'espérais pouvoir jouir de voluptés qui m'étaient agréables, sans qu'eussent à les payer de leurs larmes les yeux, qui me sont plus chers que tout. L'âme humaine est abjecte, vue de près. Elle est pareille à ces ruisselets glissant en pureté de cristal sur des lits de vase pestiférés où grouillent d'immondes animaux. Marthe, mon cœur est mon seul bien. Mais ce petit jardin est comme moi-même plein de votre souvenir embaumé. Voici la pelouse où tant de fois nous nous aimâmes au grand soleil pour la plus grande confusion des pâquerettes et des boutons d'or. Voici le rosier où un jour je cueillis une rose entrouverte que je baisais sur votre bouche, en vain attardé à chercher laquelle des deux parfumait l'autre. Hélas, que mon cœur a de peine, et ne nous reverrons-nous jamais? Ainsi parlait Robert Gossal, l'âme martelée de repentir, quand l'idée lui vint tout à coup que l'entrée de Madame Brimborion au premier acte de sa pièce était complètement ratée et que le mal venait de là. Une vision l'illumina, l'aperçu de son héroïne débarquant du coche de Poitiers dans la cour d'arrivée de la rue du Bouloir. La scène se présentait à son esprit, toute faite. Décor, la cour des messageries. Au fond, le large porche ouvert sur le grouillement animé du dehors. À gauche, des portes peintes laissant voir des intérieurs d'écurie. La pièce marche, rien n'est changé. Soudain, la cantonade éclate une fanfare joyeuse. C'est le coche de Poitiers qui arrive. Tumulte, la foule envahit le théâtre. C'est le coche de Poitiers, etc., etc. Entrée à droite des portefeuilles, à gauche des parents pressés à revoir ceux qui leur sont chers. Et à l'oreille de Robert Cosal, chante en chœur, tout improvisé, les parents et les portefaix. Les portefaix. C'est nous, les portefaix, qui sur nos dos puissants supportons des poids de 500. Les parents. Bonheur de revoir ce qu'on aime. Le coche arrive à l'instant même. Et nous pourrons dans un instant embrasser ceux que nos cœurs aiment tant. Sous le porche, brusquement la malle. La foule se précipite. C'est elle! Son de trompe, coup de fouet, grelot. La lourde voiture descend en scène, tourne et fait halte devant la boîte du souffleur. Après quoi, chose délicieuse, apparaît Madame Brimborion dans le cadre étroit de la portière. Le bout de sa petite patte hors la jupe est reposé au marchepied de la guimbarde. Sa frimousse à peine devinée, sous l'avancement du capuchon dont elle enveloppe son escapade, elle dit son émotion de petite provinciale, échouée dans une ville immense, puis elle s'exclame, épouvantée, « Salpe-je, crame-le, qu'est ceci? Mon amoureux n'est pas ici !» Et la foule étonnée reprend, « Salpe-je, corbe-le, qu'est ceci? Son amoureux n'est pas ici !» Tandis que le postillon claque du fouet, que le conducteur sonne de la trompe et que le rideau tombe lentement sur une de ces fins de premier acte qui suffisent à assurer pour 305 représentations le succès d'un opéra bouffe. Et Cosal, quand il était satisfait de lui, s'appelait carrément « mon vieux ». Du coup, « eh bien, mon vieux !» se dit-il. Dans la muette éloquence d'un hochement de tête, le complément de sa pensée se synthétisa à merveille. Il regagna sa maisonnette, s'assit à sa table de travail et écrivit tout d'une traite le premier couplet de son final. Ceci sans lampe, à la lueur du jour, le vent filtré entre les clématites de sa fenêtre. Le premier couplet en appelait un second. Le second en voulut un troisième, lequel exigea logiquement tout un chambardement du final primitif. Si bien que la lointaine horloge de Clignancourt égrenait les 10 coups de 10 heures dans l'air bleu de cette belle matinée, à l'instant même où il achevait de remettre au net son manuscrit. Il avait travaillé 5 heures dans l'emballement de l'inspiration. Très fier de lui, avide de cueillir des lauriers, il résolut d'aller sans délai secouer les puces à ce gros paresseux de Our. Ayant grimpé au pas de course à les communes de la villa, il pénétra chez le musicien. Là, une surprise l'attendait. Contrairement à l'habitude, la clé n'était pas à la porte. « Tiens !» pensa-t-il. Il toqua, rien. « Hé, ouh !» Pas de réponse. De la main, il écarta le rideau de verdure masquant la fenêtre du pavillon. Il regarda. Son front se glaçait à la fraîcheur sèche de la vitre. « Ouh ! Eh, ouh ! Eh, ouvre donc, c'est moi ! J'ai quelque chose à vous faire voir !» Il dit, et tel fut son émoi, qu'il pensa choir sur son derrière. Chassé d'un coup de bélier, la porte du sanctuaire venait de jaillir hors de son cadre, et Stéphanour était apparu sur le seuil, formidable, nu ou à peu près, habillé de sa seule culotte d'où s'échappaient en multiples sillons les graisses ballonnées de son ventre. « Je travaille !» hurla l'auteur de la main chaude, de la même voix dont il eut proclamé « Je remanie la face du globe !»« Eh bien, » fit Cosa l'effaré, « mais qu'est-ce qui vous dit le contraire ?»« Mais je vous dis que je travaille !» reprit Our. « Eh, nom de Dieu, quand je travaille, j'entends qu'on me foute la paix !» Ainsi s'exprima le Dieu qui ramena la porte sur lui. « Quel charmant être !» se dit le jeune homme resté seul. « Quelle exquise et souple nature !» Tout de même, il avait remporté une veste dans sa soif de gloire immédiate. Nous ajouterons qu'il aurait bu jusqu'à la lie le fiel amer des déceptions, si affirmant une fois de plus sa présence, le mouvement perpétuel dont sa tête d'oiseau avait résolu le problème ne lui fait aiguiller sur la supposition, puis sur l'espoir, puis sur l'absolue certitude d'une lettre de Martin Miel attendant là-bas à la poste. Ça ne traîna pas, en 5 minutes il fut prêt. Ses chaussures aux pieds, son chapeau sur la tête, et en route. Rue Jean-Jacques Rousseau, devant le guichet encombré de la poste restante, il faillit crever d'un coup de coude le sein gonflé de lait d'une nourrice, et se colter avec un frotteur dont il avait chahuté la musette de velours, grenat, en jouant de l'épaule pour arriver premier et être servi avant tout le monde. Du reste, il n'y avait rien pour lui, circonstance dont il se refusa énergiquement à accepter la cruauté. « Comment rien ?»« Oh non ? Vous n'avez pas une lettre aux initiales MH31 ?»« Non, je vous dis. »« C'est pas possible, voyons. Vous avez mal cherché. Regardez encore un peu voir. » L'employé qui l'agaçait l'envoya purement et simplement coucher. Il se retira en déclarant que le ministre des Postes était un de ses amis et qu'il se plaindrait à lui. Il vivait un peu en jeune roi dans son jardinet de Montmartre, ayant accoutumé de plier à ses caprices les petits riens de l'existence, devenu ainsi sa servante très humble. Le fait qu'il avait cru à une lettre de Marthe lui avait acquis le droit de l'attendre. Le fait qu'il ne la reçut pas le jeta tour à tour à la fureur hargneuse d'une personne frustrée dans son dû, puis à l'inquiétude angoissée de quelqu'un qui se sent sous le coup d'un péril. Une deuxième visite à la poste, que couronna un deuxième insuccès, l'emplit de mélancolie. À une troisième, dont le résultat fut précisément le même que celui des deux précédentes, il désespéra tout à fait, et il se retira sans un mot, comprenant quel horrible vide creuse sous le pied des pauvres hommes les deuils cruellement ressentis. À vrai dire, il n'avait pas cru que les choses tourneraient au tragique. Sa faute envisagée à travers l'indulgence que ses petites faiblesses lui inspiraient toujours ne lui était pas paru indigne de miséricorde. Car il était plein de bonne foi dans sa manière de se flétrir avec le sourire sur les lèvres. Bien des fois, à cette heure qui suit le départ de la bien-aimée, quand l'appartement au pillage fleure encore le subtil parfum des jeunes seins qui s'y sont mis nus, des beaux cheveux qui s'y sont dénoués, des lèvres qui s'y sont tendues, il avait senti le remords se glisser traîtreusement comme un ver en son âme débordante de gratitude émue. Bien des fois, au songer de l'apprentie blanchisseuse, il avait eu le hochement de tête qui émet un doute secret et dit « Ton nez remue, conscience !» Bah, toujours il avait chassé de la main l'essaim de ses scrupules superflus, prêt à la rigueur à se blâmer, mais comme on blâme et gracie à la fois les petites fredaines du prochain, comptées gaiement entre le fromage et la poire dans la chaleur communicative d'un banquet de vieux labadins. Jamais l'idée n'avait pu germer en sa tête que ces trahisons de chaque jour ne fussent pas de simples enfantillages, et même à la réflexion, jamais le soupçon ne lui fut venu que Marthe put pousser la susceptibilité jusqu'à en juger autrement. Et tout à coup, à propos de rien, tout changea. Sa faute lui apparut en crime, au point qu'il resta bouleversé, immobilisé sur l'asphalte, à se demander de quel limon le diable avait pétri son cœur. Le repentir, entré dans son âme, s'y conduisit comme un cochon, cassant tout, criant à tue-tête, et faisant les 400 coups. Et dans l'exclamation de stupeur que lui arracha le révélé de ses aveuglements anciens, tint tout entier en ses 12 pieds le cri de Pauline converti « Je sens, je vois, je crois, je suis désabusé. » Il passa une journée atroce, aéré par les rues au hasard de ses pas. La brume, le soir, puis la nuit, tombèrent sans qu'il s'en aperçût, et seulement à minuit et demi, le hasard de la marche l'ayant amené à passer devant l'horloge éclairée du Sénat, il se souvint qu'il n'avait pas dîné. Un café se trouvait là. Il en poussa la porte, échoua au hasard d'une banquette, demanda un sandwich, un boc et de quoi écrire, puis étalé sur son papier. Marthe, est-ce que tout cela n'est pas qu'un abominable cauchemar? Est-ce bien ainsi que j'ai eu reconnaître tant d'amour et tant de tendresse, et puis-je croire qu'un jour viendra où se cicatrisa la blessure ouverte au plus sensible de ton cœur? Oiseau blessé, fleur meurtrie, pauvre et chère idole profanée, sera-ce assez de toute une vie exclusivement consacrée à pleurer une minute d'erreur? Une fureur poussait sa main. Sur la feuille, les mots tombaient comme des grêlons dans la fièvre de cet insensé à faire rendre gorge à ses torts. On voit ainsi de ces fanatiques au tribunal de la pénitence qui baisent le sol et se frappent du poing la poitrine en braillant. C'est ma très grande faute, assoiffés de lire leurs égarements et de créer des titres à la clémence du Seigneur. Causal puisa dans ses remords des accents tout à fait touchants, des images d'une tenue littéraire très soignée. C'est ainsi qu'il compara Marthe, se collant le nez dans la blanchisseuse Anita, à un oiseau qui se casse les ailes au moment où il rentre au nid. Figure singulièrement poétique dans sa justesse absolue, et que suivirent diverses allusions discrètes à ces phénomènes de suggestion qui poussent les gens à accomplir les actes les plus monstrueux sans qu'ils en soient responsables. Exemple, les hystériques de la Salpêtrière et les pauvres petits amoureux qui se font pincer avec de jeunes apprentis en flagrant délit d'infidélité. Malheureusement, avec sa rage de ne dire les choses comme personne et de donner une idée saisissante de l'émotion qui l'agitait, il finissait, gagné à sa propre éloquence, par ne plus distinguer les phrases tombées de sa plume qu'à travers un voile larmoyant. Quand « Vous ne m'offrez rien ?» fit une voix. Il leva le nez. Devant lui, une blonde superbe souriait, les doigts plongés dans les pochettes d'un petit tablier moiré où tremblait le vert changeant d'une sacoche de peluche. Un peu surpris. « Tiens, fit-il, c'est une brasserie de femmes ici ? Oh, vous ne vous en étiez pas aperçu ?» reprit la Vierge dans la sacoche. « Vrai, ce que vos amours vous absorbent, c'est à elle que vous êtes en train d'écrire. J'espère que vous lui en dites. » Le jeune homme gardait le silence, enfin posant lentement sa plume. « Oh, savez-vous que vous êtes belle fille, vous ?» Elle se mit à rire. « Je fais ce que je peux. » « Alors oui, vous m'offrez un boc ?» Fidèle aux traditions de la vieille galanterie française, il répondit « Avec mon cœur !» Parole de paix que l'aimable enfant se tint pour dite. Elle s'éloigna. Les lourdes chopes mousseuses dont bientôt elle butait l'écu au marbre sonore de la table suait ainsi que des bicyclistes sous le coup du soleil de la route. « Eh ben, à la vôtre ! À la vôtre !» Ils trinquèrent et burent. « Moi, je m'appelle Victoria, » dit la belle pour rompre la glace. Mais l'ayant vu les yeux humides, sa curiosité s'éveilla et aussi son apitoiement, car la femme est meilleure qu'on ne dit. Elle ne blague les larmes des hommes que si elle les a elle-même fait couler. Une amertume aux lèvres, le front lentement balancé d'une personne qui connaît la vie et en salue les petites lâchetés au passage. « Ben, ça pèse lourd la douleur, » dit cette voix teintée de belles lettres. Causal, qui mordait dans son pain, laissa tomber ses paupières sur la noire détresse de ses yeux. À son tour, il inclina le front, et pendant un instant, l'un en face de l'autre, ils furent pareils à ces petits chinois de porcelaine que l'on voit s'approuver gravement au debout d'une frêle étagère. « Elle vous a plaqué, au moins, » fit l'intéressante Victoria, qui ajouta, histoire de payer son écho, « Pas une de perdue, 10 de retrouvée. Faut pas se faire de mille pour ça. Celle que j'ai perdue est perdue par ma faute, » répondit Causal la bouche pleine. « Et de celle qui ne se retrouve jamais. Hein ? Oui. Parions que vous avez fait des blagues, » dit-elle alors, « et que vous vous êtes fait pincer. » Si gravement et avec un accent de si sincère douleur, il dit ce simple mot « Oh, tu parles !» qui ne purent s'empêcher de rire. Pourtant, en entendant ajouter « Bon, je ris, mais j'en ai guère envie. Voyons, continua-t-elle causant, faut pas se frapper non plus. Qui est cette dame ?» Une femme mariée. Quel âge a-t-elle ? 32 ans. Petite, grande, grasse, non mince, blonde, non très brune. Blanc ou t'es belle, les brunes, je m'en vais vous dire, ça vaut mieux que les blondes, qui sont teignes comme tout. Et surtout que c'est ça le rouquine, avec lesquels il n'y a pas de milieu, tout bon ou tout mauvais, et mauvais on se voit sur 10. Mais je crois que ça s'arrangera, cette affaire-là. Sans blague. Ma parole d'honneur. Et puis d'ailleurs, c'est bien simple. Nous allons le savoir tout de suite. Un tapis de jeu flânait à portée de sa main. Habilement, du bout de son doigt, elle en manœuvra les angles, réussit à la mener devant elle. L'autre, intrigué, la regardait faire, fouiller à sa sacoche, en tirer un jeu de cartes qu'elle battait avec une lenteur savante. « Ce sont les miennes, » expliqua-t-elle, « et pour jamais tromper. »« Non, jamais. Oh, ça, c'est beau. Coupé. » De la main gauche, fit Causal en souriant. Il raillait, sceptique sans doute, pourtant non inintéressé, ayant le fond de superstition propre aux esprits un peu frivoles. Il fut heureux d'entendre la pythonisse annoncer gravement « Bon signe !» en tournant le 8 de carreau. Celle-ci, cependant, disposait le jeu par la moleskine du tapis, l'arrondissait en l'élégante courbe d'un plein cintre triomphal. Quand ce fut fait, elle s'absorba, le menton au creux de la main, et l'œil promené en éventail, Sibylle sur le point d'écumer, qui va lever le voile redoutable et livrer au bon dans le temps la clé du problème de demain. « Ça vaut rien, hein ?» demanda Causal, inquiété de son long mutisme. Elle répondit, les yeux aux cartes, « Au contraire !» Alors, bonne fille, pensa-t-il. Et attentif, il inclina le buste vers elle, tandis qu'elle, le doigt renversé, dans un geste de cuisinière qui s'apprête à goûter une sauce, prophétisait, « Une, deux, trois, une femme brune, une, deux, trois, un homme blond, une, deux, trois, un homme de loi. » Un, deux, trois, une lettre, un, deux, trois, une route, un, deux, trois, à la nuit, un, deux, trois, oh, une bonne nouvelle. C'est bien ce que je pensais, conclut-elle. Vous serez sûrement pardonné. À ces mots, avide d'espérance, Causal sentit bondir son cœur. « Vous êtes gentil de me dire cela, » cria-t-il. « Vous le faites pour me consoler, parce que vous voyez que j'ai de la peine. Ah, femme, on dira ce qu'on voudra, on ne vous empêchera jamais d'être des êtres de douceur, de tendresse et de charité. » Victoria, dans un pâle sourire, reconnut qu'elle était un être de sentiment. D'instinct, ils se prirent les doigts. Il eut une minute de silence, pendant laquelle allèrent l'un à l'autre et se confondirent en un seul les cœurs de ces deux putains. « Tenez, venez vous asseoir là, » cria Causal. « Je vais vous lire ce que je lui écris. » D'un bout de buvard où s'abattait son poing fermé, il avait épongé les feuilles éparses autour de ses coudes. Il en prit une, l'éleva jusqu'à ses yeux, commença à déclamer « Marthe, est-ce que tout cela n'est pas qu'un abominable cauchemar ?» De même vibre l'âme des gamins au vide ronflant des tambours, de même vibre l'âme des femmes au vide des paroles qui ne signifient rien. Le genou haut calé à la table, les yeux clignés derrière le nuage bleuâtre de la cigarette qu'elle suçait. Victoria buvait en silence le flot de pompeux lieux communs qui coulait des lèvres de Causal. Et de la tête, elle approuvait. Grue gavée, enfin contentée, en ses appétits de phrases creuses, de sentiments noblement exprimés, de pureté à ciliar la botte. Et par moments, aux beaux endroits, elle n'avait plus Dieu du tout. Ses paupières hermétiquement closes tiraient le rideau sur l'extatique jouissance d'un connaisseur qui goûte un solo de violoncelle. À la phrase « Est-ce bien ainsi que j'ai su reconnaître tant d'amour ?»« Oh, très bien !» fit-elle à mi-voix. À la période « Oiseau blessé, fleur meurtrie !» elle déclara « Oh, très poétique !» Lui, cependant, allait de l'avant, s'ébattait comme un jeune poulain parmi l'éloquence déchirante de son désespoir sans bornes. Désarmant d'un pudeur naïve, il ouvrait à deux battants les portes sacrées de l'alcôve, célébrait les intimités, jetait froidement au pourceau du chemin le cher bouquet cueilli au corsage de l'aimé. La lecture achevée, « Ben voilà, » prononça Victoria après une longue rêverie, « ce qui peut s'appeler une lettre. »« Oui, hein ? » ?»« Mais mon petit, c'était pas tant. »« Ma foi, moi, je connais pas une femme qui pourrait résister à ça. » Oh, d'un coup, il passe à la mesure. « Ah, bon cœur, faut que je vous embrasse » cria-t-il. Nous devons dire que, depuis un instant, le gaillard n'avait plus qu'un bras, l'autre ayant plongé, le poing d'abord, en le bâillement encombré d'une fente de jupon, où fourgonnait négligemment ses doigts à la recherche de l'inconnu. Et maintenant, petit à petit, il sentait sa virile jeunesse filtrée par les mille fêlures de son repentir. Son ardeur, mal calmée hier, se réveillait aujourd'hui au contact de ses coups de rose émergeant à l'une d'un bouillonnement de guipure, à la douceur de ses beaux yeux où riait le bleu sombre des pervenches, au souffle de cette bouche gaie et fraîche qui à la fois rappelait à l'ordre et pardonnait, et murmurait « Où voulez-vous vous tenir ? Vous me faites des chatouilles, c'est bête, en voilà un petit effronté. » Le pis qu'il était sorti avec de l'argent sur lui et qu'il était de ceux chez lesquels la certitude de les pouvoir satisfaire fait naître ses besoins spontanés. Or, s'étant aperçu que l'horloge indiquait 2h05, il précipita le mouvement si bien que ça devint très gentil. Vers le visage de Victoria, qu'il avait doucement renversé dans le dossier de la banquette, il avançait son fin visage où s'agitaient, sur un chuchotement de pénitence à confesse, deux lèvres de mandomone. Ce qu'il disait, elle seule le pouvait entendre, et elle l'entendait, il faut le croire, car elle l'en châtiait sans rudesse, de petites tapes qu'accueillait et renvoyait aussitôt comme des volants le pif goulu de la coupable bouche. Dans le silence du petit café, où le gaz en chiffonné sifflait, elle prononça à voix basse « Ce serait mal, cette dame, voyons, songez donc !» Mais il se récria de la belle manière, protestant non sans bonne foi de la pureté de ses intentions, disant seulement combien de soulagement il goûterait à reposer sur une épaule amie son front hélas martelé, à sentir, dans l'indéfini d'un demi et mauvais sommeil, la pression douce et consolante d'une main enfermée sur la sienne. Touchant appel à la pitié, la noble fille n'avait qu'à se rendre. Elle se rendit, sans un mot, d'un sourire qui parla pour elle, amusée, certes, troublée aussi, au point de n'oser regarder en face, à travers la glace azurée des iris qui la fixaient, l'âme perverse et sentimentale de l'éternel chérubin. Causal disait volontiers « Le clair de lune va aux grands arbres comme le bleu va aux blondes et le vermillon aux brunes. » Cette nuit-là, il fit un clair de lune superbe qui baigna d'argent et de silence les grands arbres peuplés d'oiseaux de la villa Bonabri. Mais Causal n'y retrempa point son âme sensible de poète. Ceci par la raison qu'il coucha rue Saint-Jacques, aux côtés de la blonde Victoria, sous les lambris d'une mansarde haut perchée que décoraient des photographies d'inconnus fixées au lambeau du papier avec des épingles de nourrice.